Bonsoir Albert Moukébert.
Bonsoir.
Je suis très très contente de vous rencontrer et visiblement je ne suis pas la seule. Nous sommes avec vous pour parler de Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, sorti aux éditions Alary. Quel rapport avez-vous avec l'imprévu ?
Le rapport que je vais avoir avec cette question, elle est assez imprévue.
Pour être scientifique, il faut être ouvert à l'imprévu.
Je pense pour pouvoir vivre une vie relativement saine, il faut être ouvert à l'imprévu.
Pourquoi ce livre est dédicacé à votre père ?
Parce qu'il est mort.
Qu'est-ce qu'il a apporté ? Quelle est la force de sa présence dans votre livre ?
Dans le livre, pas...
Ouais, dans votre travail, dans votre réflexion ?
Une sorte de tempérament stable.
Dans ce livre, vous nous invitez à être prudents sur une sur-simplification qui nous amènerait finalement à frôler le mensonge. À cet endroit, vous citez Stanislas Lem. Ouais. Vous êtes énervé un petit peu. Il y a beaucoup de chapitres dans ce livre qui commencent par « en finir avec ».
Je suis énervé. Je confirme. Je suis énervé calme.
Vous êtes énervé calme.
Je suis de tempérament. Je suis très, très énervé en général, très calmement.
Très calmement.
Ouais.
Mais alors, il y a une chose qui m'intrigue beaucoup dans votre livre, c'est que vous nous invitez donc à être prudent, je le disais, avec la sur-simplification. Vous nous expliquez pourquoi dans ce livre, mais finalement, les médias n'en prennent pas trop pour leur grade.
Non.
Pourquoi ?
Je pense que c'est la responsabilité des chercheurs et des chercheuses de faire un meilleur travail pour proposer des récits plus complexes. Et je trouve que les médias ont une part de responsabilité, mais c'est une cible un peu facile.
Qu'est-ce que vous reprochez aux chercheurs à cet endroit ?
D'avoir délaissé une vulgarisation complexe parfois.
C'est-à-dire,
moi, j'ai grandi avec des vulgarisateurs et vulgarisatrices de sciences plutôt anglo-saxons, comme Carl Sagan ou Richard Feynman, qui transmettaient une sorte de questionnement plus que de réponse. Et pourquoi ces questionnements sont intéressants ? Je trouve que quelque part, en cours de route, on s'est beaucoup plus intéressé aux réponses qu'aux questions. Et quand on veut répondre à une question sur des sujets complexes, on va simplifier. Et quand on sursimplifie, comme le dit Lem, ça ne vaut pas mieux qu'un mensonge. Et surtout, ça rend les choses moins intéressantes. Je n'en veux pas aux chercheurs et aux chercheuses, les individus, loin de là, c'est mes collègues et mes amis. J'en veux au fait qu'on n'a plus l'espace de faire ce travail parce qu'on a... Je vais prendre le chemin long pour cette question parce qu'elle
est importante. Je vous en prie, on est là pour ça.
Elle est importante pour moi. Je pense qu'on a commencé à confondre les résultats scientifiques et les questionnements scientifiques. Et aujourd'hui, souvent, on va se demander à quoi sert quelque chose. Quand j'étais petit, les scientifiques, c'était un peu les fous de la société. On connaît tous la photo d'Einstein qui tire la langue. Il y a une vidéo de Feynman qui explique avec une passion complètement délirante comment fonctionne un élastique. Les aimants, c'est un peu de la magie noire. Et quelque part, au cours de ma vie, il y a eu un changement où les scientifiques sont devenus des gens rationnels, qui portent des blouses blanches et qui sont obsédés par les chiffres et les statistiques. Et je pense pas que c'est juste la faute des médias. Je pense qu'il y a plein d'acteurs dans le système informationionnel actuel. Les médias ont leur responsabilité, et j'en parle un peu dans la partie quand on parle des fake news et des réseaux sociaux, etc., mais pas sur la neuromanie plus globale. Je pense qu'il y a une sorte d'utilitarianisme qui s'est mis en place où chaque information doit être exploitée. D'une certaine manière, à quoi ça sert? Est-ce que ça se vend? Est-ce qu'il y a un médicament, une thérapie, quelque chose à laquelle elle peut aboutir? Et je pense que c'est quelque chose qui est dangereux. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est très important pour moi que s'il y a des personnes qui ont lu Neuromania ou qui voudraient le lire, c'est pas juste mes opinions. Il y a un lecteur qui m'a écrit pour me dire il y a plus de références qu'il y a de pages. J'essaie vraiment de restituer une critique qui vient des neurosciences eux-mêmes. C'est-à-dire, je suis pas quelqu'un, je suis pas un neuroscientifique qui vient critiquer les neurosciences de par mon intellect supérieur à la masse. C'est des critiques qui viennent des neuroscientifiques eux-mêmes qui disent on est en train de délaisser, par exemple, les modèles théoriques pour juste des recherches empiriques parce que c'est ce qu'on arrive à financer. Alors que la recherche empirique sans modèle théorique, c'est un peu comme tirer un peu dans le noir. Et les modèles théoriques, c'est ça qui... Il suffit pas juste de voir si quelque chose marche, il faut comprendre pourquoi ça marche. Il suffit pas juste de développer un médicament si on n'a pas les mécanismes d'action derrière. Et donc, tout ça, ce serait un peu de mauvaise foi de faire porter la responsabilité de toutes ces chaînes de la fabrique de la connaissance sur le dernier maillon qui sont les médias. Encore une fois, les médias ont leur responsabilité, mais c'est tout un truc de du financement de la recherche, du temps que les chercheurs et les chercheuses ont pour essayer de vulgariser leurs connaissances, de leur donner les outils pour savoir comment le faire. Donc c'est plein de maillons dans un système très complexe qui fait qu'on est passé de des scientifiques, c'est les fous qui posent des questions, qui expliquent avec la passion des trucs méga intéressants, à les scientifiques, c'est, je sais pas, Pfizer.
Ah, et ça, c'est bien réduit d'un coup, là.
Ouais. Ça fait moins rêver.
Je triche un peu quand je vous dis « et les médias dans l'histoire », parce qu'effectivement, vous en parlez dans votre livre, mais vous parlez des réseaux sociaux, vous parlez de l'algorithme, et on va y revenir. Vous parlez de l'utilisation des sciences par la politique, et on va y revenir. Mais je triche un peu quand même sur, finalement, le temps, la disponibilité, l'argent des scientifiques, qui n'est plus peut-être aussi à la mesure de cela. Alors, je m'explique. Dans ce livre, vous nous invitez, d'une façon générale, à envisager les choses dans leur globalité. Le premier exemple, c'est l'être humain. Et donc, donc, vous dites dans ce livre, il faut bien comprendre qu'un cerveau, c'est dans un corps qui est lui-même dans un contexte. C'est à cette petite phrase rigolote après, ça m'a fait rire, qui dit « si tout le monde vous énerve, allez plutôt faire une petite sieste, peut-être que vous avez besoin de dormir ». Donc, vous nous invitez à justement prendre de la distance. Et ça, c'est une attitude politique.
Oui, oui, oui. Le neuromania, et j'ai aucun problème à le dire, est un livre un peu politique aussi, bien sûr. Pour moi, quand je parle de la globalité, c'est pas j'invite à prendre de la distance en mode prenons de la hauteur, etc. C'est de voir les choses un peu à leur juste taille et de peser les différents facteurs avec leur juste poids. Et la science aujourd'hui est handicapée par des leviers politiques plus qu'autre chose, par le financement ou le manque de financement, par le fait qu'elle devient de plus en plus fermée. Aussi loin que je peux me souvenir, quand j'ai commencé à me réveiller un peu au monde académique et à la science, j'ai été dans des groupes qui militent pour ce qu'on appelle open science, la science ouverte, le fait que la connaissance, pour qu'elle puisse bien fonctionner, elle a besoin de circuler librement. Et aujourd'hui, pour des raisons politiques, il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui sont obligés d'être embauchés par des boîtes privées qui vont mettre la connaissance sous verrou, sous des brevets ou sous des secrets industriels. Et si on reprend les scientifiques fous qui sont venus avant nous, que ce soit Einstein ou Newton, les deux l'ont dit d'une manière ou d'une autre, je dis, si j'ai vu aussi loin que ça, plus loin que tous les autres, c'est parce que je suis debout sur les épaules d'un géant. Et ce géant, c'est la connaissance accumulée par tous mes pères qui sont venus avant moi. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de géants, mais qu'il n'y a que de petits bonhommes, de petits bonhommes, de petits bonhommes? Ben, c'est la connaissance globale qui s'effondre. Et c'est un sujet hautement politique. C'est juste que... c'est comme s'il faut pas que ça soit politique. Et là aussi, on revient à ce truc de les scientifiques sont supposés être apolitiques et neutres et objectifs et statistiques, mais c'est un leurre énorme. Et je veux que remettre cette composante dans ce système global qui est la politique, parce que c'est ça qui décide si mes collègues vont être financés ou pas, si plusieurs chercheurs vont être recrutés. Si la connaissance va bien circuler, si les journaux de publication ont plus d'influence. Moi, si je veux lire mes propres articles scientifiques, il faut que je paye le journal où je les ai publiés, ce qui est complètement taré, et ça coûte très très cher. Et donc, comment est-ce qu'on va s'informer quand la connaissance scientifique est cachée derrière un paywall où l'article est à 30 balles, 40 balles, 50 balles, mais la connaissance simplifiée On la trouve très facilement en libre accès par tonne. C'est une bataille asymétrique qui nuit, je pense, à tout le monde.
Et pour pousser encore un peu plus le curseur, vous parlez de neuroloi dans ce livre, ouais. Que vous dites que ça touche aussi la justice.
Oui, je fais des conférences à Paris, je fais un moment de pub au MK2 Bibliothèque, et ma prochaine conférence, qui sera dans 2 semaines, c'est les dimanches 11h du matin, sera sur la neuroloi. Donc la neuroloi, c'est quoi? C'est une nouvelle discipline qui a émergé, où une personne a été innocentée au tribunal parce qu'elle avait une tumeur dans son cerveau, et la justice a estimé que cette tumeur appuyait sur certains réseaux neuronaux qui... incapacité, leur jugement propre, et donc a été considéré comme non responsable pour ses actes. À partir de là, c'était une vanne qui s'est un peu ouverte, et il y a des personnes qui se disent bah, peut-être qu'il faut faire passer des IRM à des personnes pour voir si elles sont vraiment responsables de leur crime ou pas. Est-ce qu'un serial killer a une sorte de trace mnésique, en sachant que nos connaissances ne sont pas du tout assez bonnes pour étayer ces choses-là. C'est une sorte de nouvelle phrénologie sous un vernis un peu plus scientifique, parce qu'il y a des IRM, il y a des trucs d'imagerie. C'est indépendant du cas de la tumeur, qui est vraiment assez exceptionnel. Là, on parle de personnes qui, a priori, n'ont pas de maladie déclarée. Et on voit qu'effectivement, c'est la neuromanie dont je parle, elle s'immisce dans plein de facettes de la société où on s'attendrait pas particulièrement à ça. Souvent, quand j'ai commencé à pitcher le livre, on pensait que c'était juste genre le cerveau gauche, cerveau droit et un peu le développement personnel. Mais on retrouve la neuromanie sur des choses comme les fake news, comme le climat, comme les réseaux sociaux, comme la neuroloi, comme la vie après la mort, comme plein de sujets.
Les sciences sont un produit comme un autre aujourd'hui.
Les sciences aujourd'hui sont un produit comme un autre. C'est pas tout à fait, mais oui. Genre, on peut dire qu'ils sont un peu un produit comme un autre.
C'est quand même une bonne occasion de s'énerver, même si
calmement.
On reste calme. Ouais. Vous parlez des outils des IRM. Dans votre livre, il y a une attention particulière aux outils, justement, oui. Notamment l'IRM fonctionnel, dont vous dites que, d'abord, premièrement, là encore, il y a sujet sur ce qu'il sait faire, comment il sait le faire, et d'autre part, de ce que nous faisons des données. C'est pas le tout d'avoir des outils. Comment on s'en sert?
Absolument. Comment on se sert des données? À qui est-ce qu'elles appartiennent? Ce qu'il faut savoir un peu, c'est que aujourd'hui, toutes les données qu'on a sur le cerveau, sur un cerveau sain, on va dire pour faire simple, c'est des gens allongés dans des machines, dans des laboratoires. On n'a pas de données biologiques cérébrales, ou en tout cas très peu, pour faire. Un mini raccourci de qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une salle en train d'écouter une personne parler, de qu'est-ce qui se passe quand vous allez à un premier rencard, de qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de regarder un coucher du soleil sur une montagne. Donc il y a un problème de ce qu'on appelle validité écologique, parce que le cerveau est un organe dans un corps, dans un contexte, et qui module plutôt son activité. Et surtout, il y a toute cette problématique, effectivement, des données, de qu'est-ce qu'on en fait, de... En France, on a encore beaucoup de données qui sont publiques, qui sont donc protégées par des lois sur les données privées, etc. Mais dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, où il y a beaucoup de données physiologiques, neuronales, cérébrales, par des boîtes privées. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu le même problème avec les données génétiques, avec toutes ces boîtes qui peuvent vous faire votre génotype. Vous envoyez, genre, ils vous envoient un kit, vous le faites, je ne sais pas si vous connaissez, vous faites machin, vous envoyez, ils vous disent, ah, vous êtes à 22% d'ici, à 23%, vous avez le risque de faire ci, le risque de faire ça. Mais après, est-ce que ces données vont être vendues? Est-ce que ces données vont être utilisées pour autre chose? Si ça se trouve, pour rien, et c'est une peur qui n'est pas importante, mais encore une fois, moi, ce qui est important pour moi, c'est de donner accès au grand public à ces questionnements. Une personne m'a écrit très énervé après avoir lu Neuromania, elle me dit, vous dites le vrai du faux sur le cerveau, mais c'est plus le faux que le vrai. Je dis oui, parce qu'on ne sait pas encore trop comment ça marche, mais j'espère que c'était intéressant. Mais oui, c'était très intéressant, mais je suis un peu resté sur ma fin. Je dis, c'est que j'ai réussi un peu ma mission.
À susciter la question. Parce que, comme vous le dites dans ce livre à propos des outils aussi, vous prenez le temps de faire des comparaisons avec la technologie et le cerveau en lui-même. Et vous dites, mais le cerveau, lui, il vient de mutations sur une longue durée. Une petite fille, elle va reconnaître un chien après avoir vu 3 images. L'IA, elle va reconnaître un chien après avoir vu 1000 images. Je vous cite.
Oui.
Et donc, Qu'est-ce qui se passe avec le cerveau? C'est qu'en fait, on veut lui faire dire ce qu'on a envie plutôt que de considérer son mystère et ce qui reste de silencieux dans son traitement.
En fait, quand on a un sujet qui est un peu mystérieux, pour reprendre votre description, quand on a quelque chose qu'on n'a pas très bien compris, en science, on appelle ça une phase pré-paradigmatique. Une phase pré-paradigmatique, c'est quand on ne sait pas très bien encore comment les choses fonctionnent. Une fois qu'on a une idée de comment les choses fonctionnent, on passe en phase paradigmatique. Après, tout le monde essaye de contribuer pour renforcer cet édifice. On a compris un peu le fonctionnement général. C'est comme si vous avez des pièces de puzzle et vous ne savez pas encore c'est quoi l'image générale que vous essayez de faire. Vous êtes encore en pré-paradigmatique. Donc, il y a des gens qui disent que ça semble être l'océan parce qu'il y a du bleu. D'autres, c'est peut-être le ciel, machin. Et à un moment, on passe en paradigmatique. On est d'accord que c'est, un jean. Et tout le monde va essayer de se dire, OK, comment est-ce qu'on construit le jean? Quand on est dans des phases pré-paradigmatiques, historiquement, toute nouvelle technologie qui était encore pas très bien comprise ou encore un peu mystérieuse a été instrumentalisée pour lui faire dire tout ce qu'on veut. C'est un peu ce que j'explique dans mon premier livre, qui est « Votre cerveau joue des tours », sur le rôle de l'ambiguïté et de l'incertitude et qu'est-ce que ça fait sur les récits que notre cerveau nous raconte, que notre organisme nous raconte. Dès que vous êtes dans une situation un peu incertaine, un peu ambiguë, ça devient comme une sorte de canevas sur lequel vous pouvez projeter ce que vous avez envie de croire. Donc, si vous croyez, je sais pas, on a parlé tout à l'heure dans les loges, si vous croyez, je sais pas, à la vie après la mort, vous allez prendre des articles de la conscience, un sujet qu'on comprend pas très bien, vous allez prendre un peu de physique quantique, quelque chose qu'on comprend pas très bien, vous allez prendre un peu d'épigénétique, quelque chose qu'on comprend pas très bien, et vous allez dire les neurosciences, l'épigénétique et les physiques quantiques prouvent qu'il y a une vie après la mort et que l'âme existe. Mais en fait, c'est une croyance plus qui vient de vous que de ces disciplines. Ces disciplines ne disent pas du tout. Et donc, les neurosciences, et plus généralement la psychologie, ça a toujours été une sorte de projection pour refléter les valeurs d'une certaine époque. Donc, la psychologie a été utilisée dans le 19e siècle pour essayer de prouver que le taux de mélanine dans un épiderme ou dans un derme hiérarchise les humains selon leur intelligence. Les thèses racialistes. Puis ça a été utilisé dans le sexisme pour dire les hommes sont meilleurs que les femmes dans les maths, etc. C'est quelque chose aussi dont je parle dans Votre cerveau joue des tours. Et aujourd'hui, l'ère du temps, c'est plus vers l'individualisme. Et donc, on va essayer de tout expliquer par le cerveau pour dire que c'est la faute de l'individu. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est la faute à votre dopamine. Si vous êtes triste, c'est la faute à votre sérotonine. Si vous n'êtes pas très artistique, c'est parce que vous êtes plutôt cerveau gauche. Si vous vous énervez, c'est votre cerveau reptilien. Si on fait rien pour le climat, c'est votre striatum. Et du coup, ça a toujours été un peu comme ça, où n'importe quelle étude un peu ambiguë encore, qui n'a pas été stabilisée, va servir d'écran pour se dire, et c'est la science qui le prouve.
Et selon vous, pourquoi ? On a quoi? On a besoin de narration? On cherche du sens? Il faut bien.
Je pense qu'on est une espèce qui se bat sur quelle histoire se raconter. Je pense que c'est ça toute la spécificité de notre espèce. C'est quand chacun de nous se raconte une histoire. Parfois, ces histoires fonctionnent bien et on coopère et on travaille ensemble. Et parfois, ces histoires ne fonctionnent pas bien et on se dispute. Et parfois, ces histoires s'écrasent contre le réel. Et après, on ne raconte plus d'histoires sur ce sujet. Par exemple, on va trouver des théories farfelues sur, je sais pas, la vaccination, sur le réchauffement climatique, sur l'autisme, sur la génétique, des sujets qui sont complexes, qui peuvent paraître un peu mystérieux, mais on n'a pas de récit sur les fractures ou sur la myopie. Même la personne la plus défiante envers les autorités de santé et les médecins, elle voit flou. Elle va mettre des lunettes. Elle va pas se dire, je vais aller mettre du miel d'acacia dans les yeux. Pourquoi? Parce que la myopie est quelque chose qui a été stabilisé depuis longtemps. On comprend intuitivement que, OK, mon œil n'est pas en train de focaliser au bon endroit l'image. Je vais mettre une lentille, ça va changer. Et oups, je vais voir. Mais quand ça passe sur des choses plus complexes, l'intelligence, ça devient plus compliqué. Et je peux me dire, non, on me ment. On n'a pas de personnes qui sont contre plâtrer leurs bras quand ils se le cassent. Personne ne dit ça. Personne ne dit, moi, je pense que le plâtre, c'est il y a des puces dedans et des lutins qui vont m'envahir pour me changer ma personnalité.
Mais quand même, quand on lit votre livre, on a l'impression que C'est une société qui lisse l'individu pour que tout le monde se ressemble. Il faudrait comme ça quelque chose qui est assez quelque chose d'élitiste.
Vous êtes unique comme tout le monde.
C'est ça.
Ouais.
On est unique, mais quand même.
Unique comme tout le monde.
Mais il faut avoir le pouvoir, le contrôle sur ses émotions. Par exemple, sur les émotions, vous dites.
Il faut avoir le contrôle sur tout.
Il faut avoir le contrôle sur tout.
Il faut avoir le contrôle sur ses enfants, sur ses émotions,
oui.
Sur son physique. C'est pour ça que, par exemple, l'alimentation, un autre sujet assez ambigu. C'est pour ça que chaque quelques temps, il y a un nouveau régime qui apparaît. Mais s'il y a un régime qui marche, c'est fini. Le jeu est terminé. Tout le monde l'utilise et ça marche pour tout le monde. Comme les lunettes, comme le plâtre. Il n'y a pas. Donc, il y a cette ambiguïté et chaque personne va... Plein de gens vont se dire, ben, il y a un petit filon que je peux exploiter ici et dire, ben, faites le... Ça me fait tout le temps rire. Je ris tout seul, mais je vais expliquer pourquoi. Enfin, le régime paléo.
Le quoi ?
Il y a un régime qui s'appelle le régime paléo et je me suis demandé, mais c'est quoi ce truc ? Et je suis allé, c'est de remanger comme les hommes du paléolithique.
Ben, comment on fait pour le mammouth ?
Ben, je sais pas. J'ai trouvé ça juste très incongru de se dire, pourquoi pas le régime néolithique ?
Ah oui, bah parce qu'ils étaient mieux gaulés au paléo, tout le monde
voilà,
le sait. Hein.
Exactement.
Mais
et donc il y a ce truc de vouloir contrôler parce que contrôler, ça rend le monde plus prévisible et la prédictabilité, la prévisibilité est quelque chose d'important pour savoir comment agir.
Ça raconte un peu la trouille des gens quand même aussi. Au moins ils ont vaguement le contrôle.
On a toujours eu la trouille, c'est je pense c'est un déterminant central de notre fonctionnement.
Il y a un passage sur les émotions, bien sûr. Enfin, il y en a même plusieurs, mais il y en a assez intéressant où vous dites les émotions, c'est volontaire, c'est un fonctionnement automatique et volontaire à la fois, mais surtout fonctionnel. C'est-à-dire qu'on a perdu de vue que ça invite à une réaction.
Oui.
À l'action. D'ailleurs, mauvais.
On a perdu de vue l'action en général.
Oui, c'est ça. Oui.
Je suis psychologue, clinicien, et quand je reçois des personnes en thérapie, je dois passer un temps parfois considérable, ce qui est assez surprenant, à expliquer que la thérapie, c'est pas par la parole, c'est par l'action. C'est une formule, je sais plus c'est qui l'a dit, on est des agents causaux du monde, c'est-à-dire on est des êtres qui causons des choses dans le monde. Je peux prendre cette bouteille et la balancer et casser quelque chose, et ça cause quelque chose. Et on a oublié le comportement. Il y a même un article de recherche qui dit Cognitive science needs behavior, que les sciences cognitives ont besoin de comportement, que plein de recherches essayent d'étudier le cerveau, les cognitions, les émotions, machin. Et c'est complètement décorrélé du fait qu'on est des êtres d'action. S'il n'y a pas derrière à quoi ça sert, à quelle action est-ce que je dois faire, peut-être que c'est la sédentarité, le fait qu'on est tout le temps assis dans un bureau à tapoter, on a oublié qu'on est des êtres d'action. Et donc, évidemment, l'émotion, c'est une sorte de boussole de qu'est-ce que je vais faire. Mais les pensées aussi, la cognition, c'est je réfléchis pour savoir quoi faire. C'est tout le but de notre espèce, c'est l'action. Pas... Je saurais même pas dire pas quoi d'autre, parce que c'est tellement une... ça devrait être tellement une évidence. Et donc, effectivement, les émotions... Un autre sujet très ambigu, dans le livre, j'écris la définition reconnue scientifiquement des émotions, qui se termine par « etc. ». Elle se termine par « etc. » par dessin, parce qu'on ne sait pas quoi mettre d'autre là-dedans. Et donc, oui, les émotions, c'est une sorte de boussole pour savoir qu'est-ce que je dois faire dans le futur. Notre cerveau est un organe prédictif qui essaye de prédire le présent et le futur en même temps. Ça paraît bizarre de prédire le présent, mais c'est un peu comme ça. Et le but, c'est de savoir quoi faire.
Bon, alors, dans cette société hein, que vous nous racontez, que vous nous amenez à regarder autrement, d'ailleurs, vous dites dans le livre, vous dites, là, il serait temps de nous regarder nous-mêmes autrement, oui. Avec une vision plus globale. Parce que, par exemple, on néglige aussi beaucoup la culture des gens.
Oui.
Et donc, je disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'assez élitiste. Vous êtes revenu sur votre premier livre et on le voit bien hein, déjà, du mieux et du moins bien, de celui qui arrive mieux à contrôler ses émotions, son comportement. Il a toujours des meilleurs points que celui qui arrive moins bien. Le paramètre culture a disparu. Et vous dites, dans les recherches quand même, ça c'est quand même c'est un vrai sujet. La prise en considération de la culture a disparu.
En fait, on a découvert quelque chose d'assez dramatique en 2010. Il y a un chercheur avec son équipe qui a publié un article très important qui s'appelle « The Weirdest People in the World ». Et « weird », c'est un mot anglais qui veut dire « bizarre », mais c'est aussi une rétro-acronymie. C'est un acronyme, mais à l'envers. C'est quand on a un mot et on veut le faire devenir un acronyme. Et « weird », c'est « western », « occidental »,« educated »,« éduqué ». industrialized, industrialisé, rich, riche et démocratique. Et en fait, il a montré que plus de 90% des recherches en psychologie et en partie en neurosciences aussi ont été faites sur des populations qui viennent, qui sont weird, donc qui sont occidentales, etc., voire plutôt américaines, voire plutôt sur des campus de psychologie aux États-Unis. Il s'est dit, bah, si ça se trouve, nos résultats ne sont pas généralisables à l'espèce. Si ça se trouve, c'est pas le cas, quoi. Et si c'est pas le cas, on est en train de dire les humains sont comme ci, la nature humaine est comme ça, la nature humaine est comme ci, machin. Si ça se trouve, c'est pas le cas, il est allé chercher. Dire, bah, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de voir comment est-ce que les humains perçoivent des lignes droites et des lignes obliques chez des populations au Congo, au Pérou, au Qatar et en Indonésie. Et il a réalisé que plein de choses ne répliquent pas du tout. Pas seulement ça, il a réalisé que au sein même des populations weird, donc des populations occidentales, genre westerner, mais on va dire occidentales, machin, machin, on peut pas généraliser des Américains sur les autres. Et que ce découpage est plutôt politique, mais ne fait pas état d'une réalité biologique. Et donc, on est en train d'essayer de tout refaire avec d'autres populations pour voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas. Il y a des choses qui semblent être universelles, qui répliquent très bien. On se dit, ok, très bien, ça c'est un truc machin. Et il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus culturelles, qui répliquent pas. D'ailleurs, ce même chercheur qui s'appelle Heinrich, il a publié un article récemment sur les IA. Je vais expliquer pourquoi je fais ce saut, parce qu'on dit les IA fonctionnent comme les humains, et lui il a dit bah quand vous venez de mon milieu, on peut se demander which humans, quels humains. Quand vous dites les IA fonctionnent comme les humains, mais c'est quels humains? Parce que si je vous pose une question, je sais pas, j'ai besoin d'un conseil sur ma relation de couple, vous allez me répondre avec votre tempérament, avec vos préférences, avec vos valeurs, si vous êtes introverti, extraverti, si vous êtes jalouse ou pas, si vous êtes quelqu'un qui pardonne facilement ou pas, et ça va orienter votre réponse. Ben, l'IA elle répond comme qui? Et donc là, il y a tout un champ sur la psychologie des IA, de faire passer des tests psychologiques. Est-ce que ChatGPT répond comme une personne introvertie? Est-ce que Gemini répond comme quelqu'un qui est très possessif ou pas? Et on est beaucoup plus... C'est un peu la thèse centrale de Neuromania, c'est de dire on n'est pas réductible à notre cerveau. On est un cerveau dans un corps, dans un environnement.
Et vous nous comparez à des gouttes d'eau?
Je compare un peu à des gouttes d'eau dans une partie. C'est pour introduire un concept qui est très important aussi, qui s'appelle les propriétés émergentes. Donc les propriétés émergentes, donc, pour faire l'histoire plus courte, mais un peu longue quand même. quand vous voulez expliquer quelque chose, il y a ce qu'on appelle différents niveaux explicatifs. Vous pouvez expliquer un même phénomène à différents niveaux. Je sais pas, je vais expliquer l'anxiété. Je peux essayer d'expliquer l'anxiété au niveau moléculaire. Quelles sont les molécules qui sont en train de faire quoi où. Je peux expliquer l'anxiété au niveau cellulaire. Quels sont les neurones qui sont impliqués, les cellules gliales, etc. Je peux expliquer l'anxiété au niveau des réseaux neuronaux. Quels sont les réseaux neuronaux dans le cerveau qui sont impliqués dans le truc. Je peux expliquer l'anxiété au niveau de l'organisme. Qu'est-ce que ça fait en dehors du cerveau? Est-ce que j'ai une boule au ventre? Est-ce que j'ai mon cœur qui bat fort, etc., etc. Je peux expliquer l'anxiété au niveau psychologique. Qu'est-ce que la personne anxieuse se dit? Je peux expliquer l'anxiété au niveau interpersonnel. Comment est-ce que ça impacte les autres de voir quelqu'un d'anxieux? Je peux expliquer l'anxiété au niveau culturel. Est-ce que différentes cultures ont différentes manières d'anxiété? Et parfois, il y a certains phénomènes qui n'apparaissent qu'à certains niveaux explicatifs, qui n'ont pas vraiment de traces à un niveau explicatif plus bas. Et pour revenir à ma goutte d'eau, il y a des chercheurs qui n'ont rien à voir avec les sciences cognitives, des chercheurs et des chercheuses, qui se sont demandé, donc c'est une expérience de pensée, mais eux, ils l'ont vraiment fait. Imaginez qu'on est infiniment petit, on est microscopique, et on tombe nez à nez avec une molécule de H2O, une molécule d'eau, et vous tendez le doigt et vous la touchez, est-ce qu'elle vous mouille? Est-ce que la propriété mouillage de l'eau est quelque chose qui est inclus dans une seule molécule d'eau ou est-ce qu'elle n'existe pas? Et en fait, ils ont prouvé que ça n'existe pas, que la propriété mouillage de l'eau apparaît quand on a au moins 6 molécules d'eau. Donc parfois, c'est un peu un autre exemple plus intuitif. C'est un peu comme si vous dites, je vais étudier les embouteillages, et vous décidez d'étudier les atomes de la carrosserie d'une voiture. Ben, y a pas d'embouteillage là-dedans. Mais même si vous essayez d'étudier la roue, y a pas d'embouteillage. Même si vous essayez d'étudier une voiture, il n'y a pas d'embouteillage. Si vous avez deux voitures, est-ce que deux voitures, c'est un embouteillage? Je ne pense pas vraiment. Trois voitures, peut-être. À partir de quand, à partir de combien de voitures, je peux commencer à étudier le facteur embouteillage? Et c'est tout le drame un peu du réductionnisme, c'est que souvent on a cette intuition de se dire je vais étudier les plus petites composantes, les plus petites composantes pour comprendre quelque chose, mais parfois la chose que je vais étudier, c'est pas le bon niveau explicatif, elle se trouve pas là. Et donc parfois, si je vais étudier le comportement d'un humain, me dire que je vais regarder son cerveau, ça peut être utile dans certains comportements ou dans certaines facettes ou dans certaines émotions, mais parfois le comportement, il est pas là. Il y a un psychiatre que je cite, s'appelle Thomas Fuchs, qui a donc cette approche non réductionniste de la psychiatrie. Il dit, imaginez que quelqu'un, je sais pas, une personne est homosexuelle et vit dans un environnement homophobe, elle est déprimée, elle est anxieuse, sa dépression et son anxiété n'est pas dans son organisme, elle est dans son environnement. Si vous la sortez, vous la mettez dans un environnement non homophobe, elle va probablement aller très très bien. Et vous êtes en train de lui faire subir une double peine. Vous lui dites, vous êtes en souffrance et la souffrance vient de votre organisme. En fait, cette souffrance ne vient pas de son organisme. Et donc, c'est très important de questionner quand on est en train de réfléchir à un sujet politique, social, individuel, affectif, cognitif, pathologique ou pas, quel est le bon niveau explicatif. Parfois, c'est l'individu. Je ne dis pas qu'il faut délaisser l'individu. C'est juste se demander, avant de commencer à réfléchir à un sujet, quel est le meilleur niveau explicatif. À quel niveau, à quels autres niveaux explicatifs est-ce qu'il se projette. Par exemple, quelque chose comme l'anxiété, on a besoin de regarder tous les niveaux explicatifs, mais d'autres choses, je sais pas, mon rapport à la mort, ah, je suis pas sûr que c'est hyper intéressant d'essayer d'étudier le rapport à la mort au niveau atomique ou au niveau neuronal ou même au niveau biologique. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de l'étudier à un niveau individuel, voire même interpersonnel, voire culturel.
Dans le livre, il y a vous donnez beaucoup d'exemples hein, sur justement les conditions des burn-out, les entreprises dans lesquelles, voilà, pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire. C'est très difficile de revenir en arrière de croyances qui sont bien ancrées. Dans votre livre, vous évoquez le fait que là, ce qu'on a bien enregistré, c'est le cerveau gauche, le cerveau droit, celui qui sait raisonner, celui qui sait être créatif. Vous nous dites, en fait, il y a trois cerveaux, il n'y en a pas deux, déjà, premièrement.
Enfin, il n'y en a même pas trois.
Il n'y en a même pas trois.
Il y a voilà. Un cerveau.
J'en étais sûre, vous alliez me retoquer.
Il y a un cerveau.
Voilà. Ça, c'est parmi, alors il y en a beaucoup hein, dans ce livre, et c'est à la fois rigolo et en même temps effrayant, des croyances qui sont tellement bien installées. Comment on déprogramme ?
On prend le temps, on n'est pas pressé. Et surtout, on investit ces terrains. Et on essaie d'expliquer pourquoi c'est pas si intéressant que ça. Il y a un concept dont je parle aussi dans votre cerveau des tours qui s'appelle le bullshit pseudo-profond. C'est un terme scientifique. Et le bullshit pseudo-profond, c'est des choses qui semblent nous apprendre plein de choses, mais en fait, qui sont un peu vides. C'est un peu comme les phrases un peu... des nouveaux gourous bateaux, je sais pas. La vie est une musique et nous sommes les danseurs.
Ok.
Ok, exactement. Genre, on peut dire, ah ouais, je vais la mettre sur... Après, on met ça sur une photo d'un coucher du soleil et on la partage, machin et tout. Le cerveau gauche, cerveau droit, les pouvoirs magiques de la neuroplasticité, tout ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est en train de nous donner une sorte de clé incroyable, mais au final, c'est tellement simpliste qu'on devrait être insulté par ces choses. Plus qu'autre chose, je reviens pour revenir à votre première question. J'aime bien faire comme ça des tangentes parfois,
mais je
sur les scientifiques et tout ça. Je pense que un des plus grands drames qui ont eu lieu dans pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces simplifications, c'est parce que on a continué à construire ce mur entre les sciences et les autres disciplines, la philo, l'art, la poésie, etc. Et c'est triste parce qu'en France, on avait une très grande tradition de philosophie des sciences, avec Gaston Bachelard, mais aussi Descartes et plein d'autres. Et aujourd'hui, on l'a un peu perdu. Il y a moins de philosophes des sciences qui s'adressent au grand public. Il y en a encore dans les universités, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'adressent au grand public, en tout cas pas en sciences cognitives. Et c'était important pour moi, par exemple, dans Neuromania, de montrer comment la philosophie éclaire plein d'aspects. Et je pense que ce cerveau gauche, cerveau droit, a été renforcé aussi par ces trucs des filières, du bac S, du bac L, de tout ça. Mais quand on y pense, l'exemple que je donne dans je ne sais plus si c'est dans Neuromania ou votre cerveau joue des tours, je ne sais pas, Benjamin Franklin, quand il est tellement fasciné par la foudre, qu'il décide de sortir un soir d'orage avec son cerf-volant et une file et une clé pour essayer de choper la foudre dans une bouteille. Est-ce qu'il est en train d'être créatif ou analytique? C'est complètement dément. Quand on est ému de voir comment les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale lors d'une division cellulaire.
Ah oui. Oui, ça aussi, c'est vrai, souvent.
Ça s'appelle l'anaphase et la télophase. C'est quelque chose de profondément émotionnel. Et on réalise que ces récits sont plus pauvres que ce... Moi, c'est ça, mon pari. C'est pas, j'aime pas faire du debunkage. Souvent, on dit, ah, c'est un livre qui débunk, machin. Non, c'est... C'est en fait, on vaut mieux que ces récits. Et là, je suis quelqu'un qui est profondément attaché à la réalité. Je trouve la réalité très, très magique. Elle n'a pas besoin d'artifice en plus quand on s'y intéresse, comme les chromosomes ou comme les aimants ou les toupies. J'ai une collection de toupies. Je trouve ça dingue comment ça tourne. Et quand on comprend vraiment comment ça tourne, c'est tellement plus intéressant que de se dire j'ai une force magique. Et il y a une sorte d'inversion, une sorte de tour de passe-passe. La dernière fois, je faisais un débat avec une personne qui fait une sorte de développement personnel, énergie, yoga, ce genre de truc. Elle disait, mais vous, les scientifiques, tout ce qui est pas en dehors de votre champ, vous le rejetez. Et je dis, on va regarder un peu l'histoire de nos disciplines. On parlait des auras, de tout ça. Il se trouve que c'est un sujet que je connais bien pour des raisons de vie qui n'ont rien à voir avec notre discussion, mais c'est juste pour expliquer qu'est-ce que je vais dire après. Et je disais, vous, par exemple, vous dites qu'on a 7 ou 8 chakras, et ce modèle théorique, c'est pour ça que c'est très important la théorie, il vient d'un livre qui a plus de 2000 ans, qui s'appelle les Upanishads. Et les Upanishads ont été écrits, je pense, on ne sait pas trop, mais il y a 2000 ou 3000 ans. Ça n'a pas changé depuis, jamais. Toujours les mêmes chakras, les mêmes énergies, les mêmes machins, les mêmes machins. Alors que moi, dans ma discipline, sur les 40 dernières années, les 30 dernières années, les 20 dernières années, j'ai eu ma thèse en 2010, et de 2010 à 2026, il y a des tonnes de trucs. D'ailleurs, dans votre cerveau, je détourne la première page, c'est probablement qu'il y a plein de trucs qui vont être fausses dans ce livre dans quelques années. Mmh. On a déjà changé des tonnes de trucs sur où sont nos souvenirs, sur l'émergence de la conscience, sur le libre arbitre. On est tout le temps en train de se dire « Ah merde, on s'est trompé sur ça, comment on va faire ? Ah merde, on pensait que ça c'était vrai, sur des trucs aussi basiques que la vision, machin. » Et au final, à l'arrivée, vous n'avez pas changé d'avis en 2000 ans. Nous, on a changé d'avis 10 fois sur les 20 dernières années. Et quelque part, vous avez réussi ce tour de force de persuader les gens que je suis borné et vous êtes ouvert d'esprit. C'est assez dingue quand même.
Ouais,
vraiment, quand on regarde tous ces trucs, des énergies, des auras, du mysticisme, du machin, c'est des trucs qui n'ont pas bougé d'un iota depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est un tour de force parce qu'encore une fois, on est une espèce qui se base sur la narration. Et pour beaucoup de gens, dans la narration, ces trucs sont plus ouverts d'esprit que les gens qui changent d'avis tout le temps, qui sont quasiment sûrs de rien. Donc les gens qui doutent sont les gens bornés et les gens qui doutent pas sont les gens ouverts d'esprit. Et c'est un peu bizarre.
Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui se passe? En fait, est-ce qu'il y a un besoin d'être rassuré par quelque chose d'ancestral? C'est quoi l'appréhension sur les sciences, alors?
Je pense que c'est, encore une fois, ce truc de, pour faire des sciences, il faut être bon dans les matières scientifiques, dans les maths, dans le machin, que c'est un truc méga méthodique et analytique. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, genre. Si vous pouvez avoir une machine à remonter dans le temps et venez dans mon laboratoire où je faisais ma thèse à la Pitié-Salpêtrière à Paris, j'avais une boîte en carton où on avait reçu des machines et où j'avais gardé les cacahuètes pour pas que ça se casse. Vous pouvez rentrer dans le bureau et me retrouver dedans avec la boîte fermée en train de faire une sieste, par exemple. Et c'était quelque chose d'accepté. Aujourd'hui, je me dis pourquoi est-ce qu'il s'acceptait ça, mais c'était accepté. Vous pouvez voir Gilles qui faisait de l'informatique en train de bidouiller un truc un peu comme Gaston Lagaffe, et ça va peut-être péter dans son visage. Vous pouvez voir Mariam qui est en train d'essayer de parler avec des personnes qui sont amnésiques pour voir si elles changent d'avis sur leur destination de rêve où elles vont jamais aller de toute façon. Et c'est méga chaotique, c'est pas du tout un truc méthodique. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu ce gap de déconnexion où il n'y a plus les moyens parfois d'expliquer tout ça. Et je pense que aussi c'est beaucoup l'école où on a mis le pas sur les résultats, où c'est devenu le but de l'apprentissage, c'est de réussir et plus d'apprendre. j'en parle, c'est une sorte de loi qui dit que quand vous mettez des mesures et les mesures deviennent l'objectif du comportement, elles cessent d'être une bonne mesure. À l'école, c'est les mesures qui sont devenues l'objectif. L'objectif, c'est la bonne note. Et c'est pas un peu la passion qui vient de la curiosité et tout ça. Et ça, c'est pas la faute aux profs, parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est encore une fois des sujets très politiques.
Dans cet environnement global dont vous nous parlez, et qui est donc dans votre livre, qui est à la fois sur l'éducation, sur l'information, sur la politique, la justice, les représentations et les croyances qui sont donc très ancrées, c'est quoi le plus dangereux ?
Rien n'est particulièrement dangereux. Je pense que c'est ma colère calme. Je pense pas que c'est des trucs de... Je pense pas qu'il faut que les choses soient dangereuses pour qu'elles soient importantes. Il y a assez de choses dangereuses dans le monde. Je veux pas en rajouter. Vraiment, ma démarche est vraiment une démarche de vouloir montrer que le réel est enchanté et redynamiser tout ça et qu'on se redonne les moyens. Je pense que ce qui est dangereux, c'est cette perte de la fascination du monde. Je pense que c'est dangereux quand
de l'émerveillement,
de l'émerveillement, de la fascination. Je pense que c'est dangereux quand on n'a plus le temps d'être fasciné. Que la première question qu'on pose, c'est à quoi ça sert. C'est dangereux quand tout sert à quelque chose.
C'est-à-dire remettre en fait des choses aussi dans l'histoire qui ne servent à rien pour le plaisir d'être.
Oui, je pense. Je suis quelqu'un qui est très attaché aux trucs qui servent à rien. Je veux un peu réhabiliter les trucs qui servent à rien.
C'est ça qui vous a conduit à faire des neurosciences ?
Non, c'est le hasard qui m'a conduit à faire des neurosciences.
Le hasard du rien ?
Le hasard de rencontres. J'ai grandi au Liban, je suis venu du Liban en 2005. Je ne trouvais pas de stage, de fil en aiguille. Je suis tombé sur un psychiatre qui n'avait pas de place, mais j'étais secouriste à la Croix-Rouge au Liban. Je me suis dit, je peux faire des stages de nuit aux urgences. Il m'a dit, personne n'a jamais proposé ça, mais OK. Donc j'ai commencé à faire des stages à la Pitié de minuit à 6h du matin. Il se passait pas grand chose, et à un moment, je pense qu'il a pris pitié de moi. Il m'a dit, ok, viens la journée maintenant. Je dis, ok, j'ai été promu. J'ai commencé à venir la journée, et il se trouve que au Liban, on est plutôt trilingue et que j'ai un profil un peu geek, dire ça comme ça. Et au laboratoire, on venait de recevoir des premiers casques de réalité virtuelle pour faire de la thérapie par réalité virtuelle et des casques de tracking oculaire. Et que la science se fait en anglais, et je parlais anglais, j'étais bon en informatique et j'étais psychologue, ce qui était un truc assez rare apparemment à l'époque. Et le psychiatre qui m'avait accueilli venait de démarrer un master de neurosciences. Il m'a dit, tu as un profil qui serait bien pour un master de neurosciences. Je venais de l'université américaine de Beyrouth, donc c'est pas du tout psychanalytique. La fac où j'étais, il y avait pas mal de cours de psychanalyse que je comprenais pas très bien. Il voyait que je lui en avais parlé. Il m'a dit, viens, fais un bifurque sur les neurosciences et on verra comment on fait pour ton M2 de psycho. Et j'ai dit, OK.
Mais
j'ai fait des neurosciences.
Votre façon de raconter voudrait dire que vous auriez pu tomber dans un autre endroit, vous passionner de la même
absolument.
Façon.
Je ne sais pas si je me serais passionné de la même façon, mais j'aurais pu très facilement tomber dans un autre endroit, oui, absolument.
Non, mais quand même, une espèce de capacité justement à vous émerveiller de ce qui est...
J'ai toujours eu un truc pour... J'ai toujours été fasciné par comment les choses fonctionnent. Je démontais les VHS à la maison, même si je ne savais pas comment les refaire et je ne comprenais pas comment ça marche. Mais j'aimais bien démonter... Genre, pour l'anecdote, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est trop tard maintenant, je me suis déjà engagé dans la voie. J'ai grandi au Liban où c'était la guerre. C'est encore d'ailleurs la guerre, mais... C'était la guerre aussi, où il n'y avait pas le courant tout le temps. D'ailleurs, il n'y a pas le courant encore tout le temps. Et du coup, parfois, quand on va pour allumer la lampe, elle ne s'allume pas parce qu'il n'y a pas l'électricité. Et quand ça ne s'allumait pas, je démontais la lampe parce que je ne comprenais pas le concept. Et du coup, mes parents ont dû mettre tout en hauteur pour que j'arrête de tout démonter tout le temps, voire de casser les lampes pour voir si le filament était encore intact ou pas. Mais j'étais, par exemple, à l'école, j'étais relativement nul. J'ai eu mon bac à peine. J'étais assez mauvais élève. C'est vraiment bien plus tard que j'ai commencé à relativement faire sens.
Dans votre livre, vous nous amenez à considérer aussi qu'en période de crise, votre livre se termine sur cette note-là, en période de crise, c'est la solidarité qui apparaît, et non pas ce que vous nous démontrez dans tout le reste du livre, c'est-à-dire l'individualisme qui tend gentiment quand même à attaquer notre façon d'être en démocratie.
Oui, c'était important pour moi que le livre soit pas juste des récits sur le cerveau, mais de montrer que les histoires qu'on se raconte sur le cerveau s'inscrivent sur des histoires plus larges sur notre espèce et sur notre fonctionnement. Et il se trouve qu'avant d'écrire ce livre, j'avais lu un autre livre qui s'appelle A Paradise Built in Hell, un paradis construit en enfer, d'une sociologue et journaliste qui l'avait écrit sur ce récit de... En période de crise, les gens se replient sur eux-mêmes. Elle avait montré que pas du tout. Quand il y a une tempête, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, quand elle a étudié 5 catastrophes comme ça, qu'elles soient des catastrophes politiques, naturelles, économiques, etc., la majorité du temps, ce qui se passe, c'est un mouvement de solidarité. Et ce mouvement de solidarité est souvent freiné par la croyance qu'en période de crise, les gens deviennent individuels. Et donc, souvent, les autorités politiques, policières, etc., vont intervenir en se disant les gens vont devenir des sortes de zombies qui se bouffent entre eux. Donc, ils vont intervenir, envoyer la police, ou envoyer l'armée, ou envoyer des choses. Et quand les gens voient la police ou l'armée arriver, c'est là que la panique démarre. Et donc, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice qui est complètement fausse, qu'on a vu dans plein d'endroits dans le monde, où c'est la panique. Elle appelle ça la panique des élites, mais c'est pas les élites comme on l'entend en France, genre les élites, je sais pas qui, dans quel complot. C'est vraiment juste un lien de hiérarchie. Donc, les personnes au-dessus, dans la hiérarchie, d'une chaîne de hiérarchie. Ça peut être la maire pour un arrondissement, ça peut être le président de la région pour une région, ça peut être le président de la République, machin, machin. Mais elle dit, en fait, on a cette... Peut-être que j'aurais dû dire ça au début. C'est trop tard maintenant. Pourquoi est-ce que c'est important? J'étais en train de demander pourquoi c'est dangereux. Pourquoi c'est important? En fait, les croyances qu'on a sur nous-mêmes sont ce qu'on appelle des croyances performatives. C'est-à-dire, elles impactent l'action qu'on va avoir sur le monde. Si moi, je crois que je suis plutôt cerveau gauche que cerveau droit, ça va impacter la manière dont je choisis ma carrière. Si moi, je crois que j'utilise que 10% de mon cerveau, ça va impacter mon comportement pour essayer d'aller utiliser 12 ou 14 ou 15. Si moi, je crois que les gens n'aiment pas changer, je vais essayer de passer de force, parce que de toute façon, ils n'aiment pas changer, et ma réforme est importante, donc il faut que je l'impose. Si moi, je crois que je peux soit être émotionnel, soit être rationnel, je vais essayer de contrôler mes émotions, parce que c'est ma rationalité qui va me permettre de réussir. Et donc, si moi, je crois que les gens deviennent individualistes quand il y a des crises, et je suis en position de responsabilité, je me dis, il faut prendre les devants et protéger tout le monde pour que cette crise ne cause pas plus de dégâts. Sauf que le drame, c'est que si c'est pas vrai, c'est mon intervention qui va faire qu'il y aura une crise, et je vais me dire, tiens, j'ai eu raison. Et donc, je voulais finir le livre un peu sur cette idée de c'est pas juste des histoires. C'est des histoires qui ont des conséquences, qui parfois, non seulement sont délétères, mais parfois empêchent des choses positives d'émerger. Parce que elles deviennent autoréalisatrices. Donc la personne qui a envoyé la police pour contrôler les gens quand il y a eu l'ouragan Katrina dans la Nouvelle-Orléans, elle, quand elle est rentrée se coucher le soir, elle s'est dit « j'ai fait du bon boulot ». Parce que les gens ont commencé à paniquer, et c'est bien que j'avais envoyé la police, sinon ça aurait été les émeutes. Mais elle va jamais se dire, en fait, si j'avais pas envoyé la police, les gens n'auraient jamais paniqué de toute façon. Et il se serait rien passé, et j'aurais pu envoyer la police faire autre chose. Rebecca Ferguson, qui a écrit ce livre A Paradise Built in Hell, elle dit, en fait, on a alloué des policiers pour aller protéger des magasins pour qu'il n'y ait pas de sorte d'émeute et des gens qui viennent et qui volent les trucs, et du coup il n'y avait plus assez d'effectifs pour aider des personnes qui étaient en train de se noyer ou qui étaient en train de perdre leur maison. Et donc c'est aussi des allocations de ressources qui sont très performatives, donc qui ont un impact dans la performance collective qu'on a. Et c'était important pour moi de montrer que ces récits qu'on se raconte sur nous-mêmes, c'est pas juste des récits sur la sérotonine, sur la dopamine, sur machin, mais c'est aussi des récits sur la dernière partie, c'est vraiment une sorte de liste comme ça, sur la résistance au changement, sur les périodes de crise, sur les effets cobra, sur tout ça.
Et vous, en quoi vous croyez ?
Plein de choses. Sur quel sujet ?
C'est ça le truc, en fait. C'est de toujours, en fait, considérer qu'il y a plusieurs pistes.
Oui, il y a pas, je pense, quand je fais des conférences, je finis toutes mes conférences avec les deux mêmes citations. J'ai cité juste la première, la deuxième n'est pas pertinente, mais si vous la voulez, je vous la dirai. C'est, je pense que c'est une des idées les plus dangereuses qu'une personne pourrait avoir, c'est de se dire, si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux.
Bah, je veux bien la deuxième.
La deuxième, c'est penser est une façon, réfléchir, c'est une façon élégante de dire changer d'avis.
Oui, pas mal. Très bien. Ma dernière question, Albert Moukébert, sera la suivante. Dans votre livre, vous expliquez aussi que le principe de la science, quand on a fait une découverte, c'est de bien comprendre que cette découverte va elle-même amener des expériences autour de cette découverte qui vont modifier l'expérience elle-même et la découverte.
Oui.
Et donc, j'ai envie de mettre cet élément en écho avec un autre passage de votre livre dans lequel vous dites « L'humain a envie de mener une quête sur son moi qui est sans but et sans fin. » C'est la même chose ?
Oui et non. C'est-à-dire, quand je suis quelqu'un qui cherche à savoir qui je suis, je deviens juste une personne qui cherche à savoir qui je suis. Ça ne m'aide pas. Il n'y a pas de réponse. C'est une quête sans réponse. C'est un peu la même chose parce que je vais faire à nouveau un
détour. Ah, mais je vous en prie.
Il y a un philosophe britannique qui s'appelle Ian Hacking, qui est mort il y a quelques années, qui parlait des diagnostics psychiatriques. Et Ian Hacking, il a trouvé quelque chose d'assez génial, je trouve. Je n'ai pas mis dans le livre, j'aurais peut-être dû. Il dit, imaginez que moi j'ai un certain set de symptômes. Je vais voir un psychiatre ou je vais sur Internet. Et je trouve que mes symptômes correspondent à une étiquette. On va dire, je découvre que je suis, je sais pas, j'ai un peu peur de parler en public et je suis anxieux. Et je vais voir un médecin et qui me dit, tu as une anxiété sociale. Quand on dit que tu as une anxiété sociale, je vais aller chercher quels sont les autres symptômes. Je vais découvrir qu'il y a des symptômes que j'ai pas, mais cette connaissance va modifier mon comportement. Je vais commencer à les avoir, mais aussi j'ai aussi d'autres comportements de telle manière à ce qu'à un certain moment, le savoir que j'ai ce diagnostic va modifier mes comportements. Mais si je modifie mes comportements, à un moment, il faut que vous modifiez les critères de la maladie. Parce que la maladie, elle correspond à moi, et moi, je suis en train de bouger tout le temps. Il appelle ça les looping effects, c'est des sortes de looping. Il dit, nous, on est comme des cibles mouvantes. À chaque fois que vous essayez de viser sur un comportement humain, et vous le définissez, il bouge. Et il faut rebouger. Et c'est une sorte de course sans fin, où il y a tout le temps des trucs à mettre à jour, et c'est pour ça que c'est différent d'autres sciences où si vous décrivez cette table, bah la table, elle reste comme elle est. Mais si je vous décris, je dis, ah, elle est comme ci, elle est comme ça, vous trottez un peu dans la tête le soir et vous allez commencer à changer un peu. Et donc, quand j'essaye de savoir qui je suis vraiment, je change un peu. Je deviens quelqu'un qui cherche à savoir qui elle est vraiment et donc ça devient une sorte de chien qui court derrière sa propre queue. Et dans le livre, je parle de ce paradoxe qui s'appelle le paradoxe de la continuité sans preuve du self, où on a l'impression qu'on est une personne, qu'on est la même personne de notre naissance à notre mort, alors qu'il n'y a aucune raison de le croire qu'on change plein de fois, mais qu'on change tellement lentement qu'on n'en a pas conscience. Et c'était pour répondre un peu à cette question de d'essayer de se comprendre par l'introspection. Et pourquoi là aussi ça marche pas beaucoup, parce qu'une grande partie de qui on est, c'est les autres qui nous façonnent. Et donc, on est des moving targets, des cibles mouvantes. Et c'est très important de mettre à jour, et pas s'enfermer dans une sorte d'introspection sans fin, parce qu'il n'y a rien à trouver.
Et donc, en parallèle, le principe de l'expérience scientifique qui, elle, veut qu'une expérience donne lieu
jusqu'à ce que on arrive à ce qu'on appelle une théorie. C'est quand on se dit, OK, là, on a compris un truc. En science, le mot théorie est l'opposé de ce qu'il est dans le langage courant. Quand je dis j'ai une théorie, en science, c'est j'ai une hypothèse. Et quand quelque chose passe à une théorie, c'est quelque chose qui est vérifié. C'est pour ça qu'on a la théorie de la gravité, la théorie de l'évolution. On se dit, OK, là, c'est assez certain. Ça commence à ralentir un peu. Mais dans les sciences cognitives, on est encore très, 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 très loin.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire et on va vous suivre de très près pour cela. Je vous remercie beaucoup, Albert Moukébert.
Merci beaucoup pour cette échange.